Dans l'actualité des idées aujourd'hui, faisons-nous encore la guerre? On en parle avec notre invitée, l'anthropologue Catherine Haas, chercheuse associée au CERNA, le Centre d'économie industrielle, chargée de cours à Sciences Po Paris. Elle publie « Aujourd'hui la guerre » chez Fayard, un vaste ouvrage où elle analyse ce terme, ses usages, les configurations politiques qu'il recouvre et livre à travers lui un nouvel éclairage des enjeux contemporains. Tout est parti de quatre mots. « Nous sommes en guerre ». C'était en France, novembre 2015.
Donc nous sommes en guerre. Et parce que nous sommes en guerre, nous prenons des mesures exceptionnelles. Et nous agirons. Et nous frapperons. Nous frapperons cet ennemi pour le détruire. Et nous répondrons au même niveau que cette attaque.
Cette décision, elle est non seulement illégale, mais c'est une erreur à plusieurs égards. Le nationalisme, c'est la guerre.
Mes chers compatriotes, les terroristes ont engagé la guerre à la France. Notre pays ne doit pas céder. Notre pays ne doit pas reculer. Notre politique extérieure doit intégrer le fait que nous sommes en guerre.
Et puis il faut surtout maintenant mettre en place les conditions d'une véritable guerre de l'État contre ce fondamentalisme islamiste.
La France est en guerre. Les actes commis vendredi soir à Paris et près du Stade de France sont des actes de guerre.
Nous sommes en guerre. Les mots sont prononcés en novembre 2015 par le Premier ministre Manuel Valls, puis par François Hollande qui parle d'actes de guerre. Voilà ce mot guerre et autre acceptation du mot depuis quelques années dans le langage des dirigeants, des responsables politiques français dont Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron. Bonjour Catherine Haas.
Bonjour.
Merci d'être avec nous à vos côtés, l'écrivain et académicien, auteur de Au-delà des frontières, paru chez Grasset, Andreï Makine qui est resté avec nous. Rebonjour Andreï Makine. Nous sommes en guerre. Dans cette affirmation de Manuel Valls, Catherine Haas, vous interrogez à la fois le mot « guerre » et l'emploi de la première personne du pluriel. Qui est ce « nous » ? C'est la France, les Européens, les démocraties occidentales que désigne Manuel Valls à travers ces mots ?
Ben, peut-être que c'est tout à la fois et c'est peut-être un « nous » tout à fait indistinct en réalité. Et surtout, c'est un « nous » qui affirme Là où l'évidence, c'était que nous n'étions pas en guerre. Et donc, ce qui, à ce moment-là, interrogeait, c'était pourquoi l'usage de ce mot, si on est d'accord sur le fait que la guerre engage minimalement la réciprocité et de plus la durée. Or, le lendemain, aucun obus n'a sifflé sur nos têtes, pas plus que les obus n'ont sifflé sur les têtes des Américains le 11 septembre 2001. Et donc, moi j'ai pris le mot au mot, savoir ce qu'il voulait dire, savoir ce qu'on affirme par là. Et ce qui paraît, ce qui se voit, c'est que quand on dit c'est la guerre, quand ce n'est pas la guerre, c'est toujours dire pour un État son intention de la faire. Et à la fois il y avait un guerre, nous sommes en guerre à l'intérieur, mais que ce nous sommes en guerre ne recouvrait absolument pas les fronts extérieurs sur lesquels la France est effectivement en guerre. Et là on ne les nomme pas, que ce soit le Mali, la Syrie, je crois qu'il y a 11 000 soldats français qui sont quand même déployés à l'étranger. Et donc ce guerre à l'intérieur masque en même temps le guerre à l'extérieur.
Traditionnellement, qu'est-ce qu'on appelle la guerre dans son opposition à la paix ?
Ce qu'on appelle la guerre, on peut dire minimalement qu'il y a guerre quand deux entités politiques constituées s'affrontent dans la durée, en vue peut-être d'un but politique disputé.
Jusqu'ici, c'était ça la guerre. Il faut un ennemi, un adversaire, il faut peut-être aussi une ligne de front pour qu'il y ait guerre.
Il faut un ennemi, il faut un adversaire, mais le nous sommes en guerre français dit l'ennemi. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que dire la guerre, c'est aussi un peu dire l'antagonisme. Mais l'antagonisme ne suffit pas à dire toute la guerre. Mmh. On peut avoir des antagonismes en politique qui ne sont pas guerriers, bien heureusement. Mais oui, des lignes de front, des buts politiques, l'affrontement des volontés, comme disait Clausewitz, et le but de la guerre était de désarmer, c'est-à-dire de désarmer la volonté de l'adversaire.
Nous sommes en guerre, quand Manuel Valls prononce ces mots en novembre 2015, au lendemain des attentats, de l'attentat du Bataclan, il y a aussi une détermination, une volonté qui est affichée à travers cela. Alors est-ce que c'est réellement dans le sens traditionnel d'une théorie générale de la guerre qu'il a été employé, ce mot « guerre » Est-ce que vous ne pensez pas qu'il a peut-être été utilisé plus symboliquement pour affirmer une posture volontaire, lucide, pour souligner une prise en compte de la menace ?
Oui, mais les autres États européens qui ont été très frappés également par le terrorisme n'ont pas eu recours à la fois les dispositifs législatifs, parce que c'est pas parce qu'il dit nous sommes en guerre que c'est un mot qui ne veut rien dire. Il dit la gravité, il peut dire peut-être simplement l'émotion, c'est 140 morts et pour le coup une véritable scène de guerre littérale. Mais il y a eu des dispositions qui ont été prises après ça. C'est l'état d'urgence qui a été perpétué, dont certaines dispositions ont été perpétuées par la loi Collomb d'octobre 2017. C'est l'état d'urgence et c'est la déchéance de nationalité comme type de réponse. Donc il y a bien guerre, mais cette guerre dont il parle, elle vise en premier lieu le territoire national. Et les citoyens nationaux, enfin les citoyens français. Et sur ce champ-là, il faut donc voir, on a vu ensuite comment la question de l'islam a été l'objet de débats délétères, comment... je me souviens de la déclaration de Hollande quand il annonce la fin de, il dit bon, très bien, on ne recourra pas à la déchéance de nationalité, en sachant que le code civil prévoit, ou le code pénal, prévoit déjà la sanction pour des gens qui auraient trahi ou pour acte de terrorisme, c'est-à-dire prévoit déjà la possibilité d'une déchéance de nationalité. Et il dit qu'il avait voulu faire réconcilier la nation là où sa politique était foncièrement clivante.
Voilà, et vous montrez à travers l'utilisation de ce terme de guerre en 2015 et dans les années qui ont suivi aussi, notamment là, dans cette situation-là, les répercussions qu'il y a pu y avoir sur la scène intérieure par la suite, mais aussi comment cet état de guerre déclaré a justifié l'intervention militaire de la France au sein d'une coalition internationale en Syrie. Elle était déjà présente auparavant, mais c'était pas là encore une déclaration de guerre au-delà de nos frontières. Andrei Makine, quelle est à vous, on a envie de poser la question, l'académicien, votre définition du mot guerre aujourd'hui? Comment vous l'entendez en 2019?
Écoutez, Catherine Haas a fort judicieusement cité Clausewitz, le grand théoricien, qui a combattu d'ailleurs aux côtés de l'armée russe. Enfin, c'est pour ça qu'il est très connu contre Napoléon, très connu en Russie. Et Clausewitz, ce grand théoricien, il disait, et praticien de la guerre aussi, il disait « la guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens ». La guerre est politique. Et qui dit politique dit aussi l'économie. Quand on a créé aux États-Unis un monstre qui s'appelle le Pentagone, cet énorme complexe militaro-industriel qu'il faut nourrir avec des guerres, essayer de dire aux généraux du Pentagone, écoutez, demain il n'y aura plus de guerre. Mais ils inventeront un ennemi. 17 services secrets et l'avion qui vient de paraître, qui vole déjà dans les cieux, le F-35 avec plusieurs modifications, son coût est entre 150 millions et 300 millions. Imaginez, un seul engin. Et toute l'élaboration de cet avion, avec les mécaniciens, les ingénieurs, les pilotes, a coûté, vous ne comprendrez jamais, moi non plus je ne comprends pas ce chiffre. Les Américains l'appellent, je pense, $1 trillion program, un programme à 1000 milliards de dollars. 1000 milliards de dollars. Un million, je pourrais comprendre aussi. C'est 1000 milliards de dollars. Il y a un milliard de gens, d'hommes et de femmes, et d'enfants surtout, qui meurent de faim, qui sont menacés par la famine sur cette planète. Donc, à chacun de ces moribonds, on aurait pu donner 1000 dollars. Et ça les ferait vivre pendant des années, parce qu'ils vivent avec un dollar par jour. Pour moi, la guerre, c'est ça.
Catherine Haas, puisque vous avez fait aussi ce voyage à travers la pensée des grands théoriciens de la guerre, et notamment trois noms, Clausewitz, que vient de citer Andrei Makine, mais aussi Carl Schmitt et Mao Zedong. Quelles sont leurs interprétations, leurs justifications de la guerre, leurs différentes approches?
Voilà, oui, parce que personne ne cherche à justifier, et l'intérêt de ces figures-là, mais aussi de l'administration Bush, évidemment pas dans les mêmes... même puissance de pensée ou de théorisation, mais néanmoins réelle. Ce qui était intéressant, c'est que la façon dont il pense la guerre, il la pense pas de façon théorique, abstraite, même chez Clausewitz, puisque vous l'avez rappelé, Clausewitz a été aussi un militaire, enfin c'est quelqu'un qui a combattu, puis qui a combattu férocement contre la soumission de la Prusse à la France, avec des convictions nationales très fortes et non nationalistes. Et c'est que chacun pense la guerre à partir de ce qu'elle doit être. Et c'est ça qui est intéressant dans les écrits, c'est qu'ils suivent... Alors Schmitt, c'est un peu à part, hein, parce que Schmitt, il pense la politique, il pense pas la guerre. Ça, c'est un point important. Et donc chacun met en œuvre ce qu'il pense devoir être la guerre, c'est-à-dire la guerre doit être la continuation de la politique par d'autres moyens. Et chez Clausewitz, c'est chez Mao, c'est la figure de la révolution par la guerre, c'est-à-dire que à la fois il ne peut pas y avoir de révolution sans guerre, mais jamais la guerre doit prendre le pas sur la révolution. Et donc les conceptions sont tout à fait hétérogènes, et c'est là où une théorie générale, une définition générale de la guerre, en tous les cas dans ce dispositif-là, ne tient pas. Mais de les réinvestir, réinvestir leurs pensées depuis leur temps politique propre, à partir de leur propre catégorie, et voilà, c'est un peu le...
En quoi, du coup, ça nous éclaire aussi de les réinvestir en fonction du temps où ces pensées-là ont été développées?
Ça nous éclaire parce que c'est de voir, par exemple, la portée et la puissance de l'idée nationale chez Clausewitz. C'est de voir dans comment dans chaque période et dans chaque configuration, en fait, ce que ça apporte, c'est que ça se pense jamais de la même façon. Voilà, quelque chose de cet ordre-là. Et c'est en ça que je pense que c'est aussi un outil pour le présent en termes d'outil d'enquête. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rabattre une définition de la guerre en disant « mais tiens, ça correspond plus à la définition, alors la guerre a disparu ». Et c'est le travail fait dans la dernière partie sur l'administration Bush, mais c'est de voir qu'est-ce que ça dispose, quelles sont les catégories, comment ça pense et comment cette pensée aussi détermine un fer de la guerre.
Andrei Makine, vous qui êtes un écrivain de double culture, français d'origine russe, est-ce que dans cette manière d'appréhender, de penser la guerre aujourd'hui, vous diriez qu'il y a une façon, alors pas bien française, mais bien occidentale, de dire la guerre et de la penser?
Oui, c'est une guerre idéologique, bien sûr. C'est les guerres qui sont menées aujourd'hui, ils correspondent à une idéologie avant tout. Mais ce que vient de dire Catherine Haas me rappelle justement cette phrase de Clausewitz. Vous avez hésité à la définir. Je vous comprends très bien. Parce qu'elle a dit, tout est simple dans la guerre. Tout est simple. Mais la chose la plus simple est la plus difficile. Et donc, vous voyez, par cet aphorisme, je pense qu'il exprime la cause première de la guerre. Quelle est la cause première de la guerre? Juste, je ne sais pas, le meurtre d'un archiduc, vous voyez, ou le petit incident à la frontière polonaise pour la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qui lance la guerre? Je pense qu'il y a quand même d'abord un corpus d'idées qui mûrissent et puis qui explosent. Mais matériellement, après, ça se traduit par des massacres. Vous voyez, une petite fiole que M. Colin Powell agite à l'ONU en disant, voilà, ça c'est la preuve des armes de destruction massive en Irak, ça se traduit quand même matériellement par la mort d'1,5 million d'habitants irakiens. Pensons à eux. Une petite fiole dans la main de ce faucon américain, mais voilà, ça signifie 500 000 d'enfants irakiens massacrés. C'est aussi simple que ça. Clausewitz avait raison. Oui, tout est simple, mais la chose la plus simple et la plus difficile, et la chose la plus simple, c'est qu'il y a des morts. Et on l'oublie souvent.
Catherine Haas, vous semblez dubitative.
Oui, parce que c'est en exergue du livre, je cite un poète qui s'appelle Jean Grosjean et qui imagine une conversation entre Clausewitz et Charles Nost. Et il lui fait dire « les guerres sont obscures et c'est bien ce qui m'irrite ». Et je crois que les guerres sont tout sauf simples, qu'un commencement ne dit rien de ce qui va se passer un an plus tard. Je pense que même en 39, personne ne pouvait imaginer les proportions, toutes les proportions et toutes les conséquences qu'aurait cette guerre-là. C'est la même chose en 14. Personne n'imaginait, enfin en tout cas quand on lit les contemporains de l'époque, et là je pense à des écrits de Freud, c'était inimaginable que l'ampleur de la destruction soit telle en fait. Voilà. Donc dire il y a une fiole et ça crée ça, oui les guerres ça crée...
Oui. Le déclic est toujours simple, on pourrait dire comme ça, le déclic, voyez-vous. Enfin la vision, l'image peut être très très simple. C'est ça que Clausewitz voulait dire, je pense.
Je pense que le motif... Le motif est un motif en réalité,
souvent,
et que les mobilisations antérieures, la volonté de faire guerre, qui à mon avis est aujourd'hui aussi un symptôme, enfin moi j'ai le sentiment qu'on n'a jamais vécu, de mon contemporain, où les États n'ont jamais autant dit, et je pense à Trump, à la Syrie, à Israël, c'est-à-dire on va faire, c'est-à-dire le volontarisme guerrier s'affirme, n'est plus, on va passer par des médiations, des façons de la contourner, des accords, tout ça, et qu'on est dans une période comme ça où la volonté de guerre se dit. Alors après, on peut trouver un prétexte qui mettra l'étincelle à toute la plaine, mais je ne crois pas que ça se concrétise dans un petit acte, voilà.
Catherine Haas, vous distinguez bien aussi le terme de guerre et celui de violence qui occupe le monde aujourd'hui. Vous marquez deux ruptures, soulignez deux ruptures historiques, à la fois politiques et rhétoriques, qui nous permettent peut-être de comprendre comment se parle la guerre, se dit la guerre et se pense la guerre aujourd'hui. C'est la chute du mur et c'est le 11 septembre. En quoi ces deux événements ont changé la face de la guerre aussi?
Alors, chute du mur et en septembre, ils ont changé la face de la guerre. Bon, c'est pas exactement mes termes, mais je pense que ça, c'est le constat, un peu le point de départ du livre, c'est que c'est, et notamment à partir... Disons entre un peu avant peut-être le 11 septembre, et le 11 septembre est entré dans cette séquence, qui était de ne plus nommer les guerres. Et que ça c'était une constatation, c'était qu'à la fois dans le champ politique, on a débaptisé les guerres, c'est la guerre en Yougoslavie, Javier Solanar qui déclare à la veille des bombardements, nous ne faisons pas la guerre contre... la Yougoslavie et contre le peuple yougoslave, d'un autre côté de voir que dans les écrits théoriques en fait qui datent à peu près de la même période, c'est-à-dire fin des années 90, début des années 2000, donc c'est la guerre yougoslave ici marque un moment. Qui est de dire aussi que il n'y a plus de guerre, mais il y a des violences civiles, qu'il n'y a plus d'État dans la guerre, et que se met en place en quelque sorte une théorie générale de la violence qui se propose de penser en fait ce qu'autrefois pouvait penser une théorie générale de la guerre.
Alors je propose qu'on remonte en mars 1999, réécouter les mots précis de l'Espagnol Javier Solana, secrétaire général de l'OTAN, qui annonce donc dans ce discours les premières frappes de l'OTAN sur la Yougoslavie.
Les frappes ont été menées contre des cibles militaires soigneusement sélectionnées, liées essentiellement au système de défense antiaérienne de la République fédérale de Yougoslavie. Les premiers comptes rendus à ce stade indiquent que ces attaques ont été couronnées de succès. Tous les avions de l'OTAN sont rentrés sans dommage à leur base. Nous sommes déterminés à poursuivre l'opération jusqu'à ce que nous ayons atteint nos objectifs. Arrêter la violence et éviter une catastrophe humanitaire plus grave encore. Nous ne sommes pas en guerre contre le peuple de Yougoslavie. Nos actions sont dirigées contre la politique répressive du gouvernement yougoslave qui refuse d'avoir un comportement civilisé dans cette Europe de la fin du XXe siècle.
Nous ne sommes pas en guerre contre le peuple de Yougoslavie. Nos actions sont dirigées contre la politique répressive du gouvernement yougoslave. Le changement ici, Catherine Haas.
C'est qu'à la veille de 38 000 sorties donc de l'aviation de l'OTAN qui va bombarder la Serbie, à ce moment-là, le mot de guerre est absolument absenté. Et donc se créer comme ça un hiatus entre ce que j'appelle la situation de référence de guerre, c'est-à-dire il y a guerre, mais la politique n'est plus là pour la nommer. Et là, à mon avis, ça et on est toujours dans cette séquence en réalité, et qui sera continuée par la suite par les États-Unis, qui ne diront pas une seule fois qu'ils sont en guerre contre l'Afghanistan ou l'Irak.
Ils ne le disent pas. Qui bien parleront, et ça, c'est l'administration Bush de la guerre contre le terrorisme. En revanche.
Alors, qui parleront de la guerre contre le terrorisme? Mais la guerre contre le terrorisme va mettre en œuvre ce que j'appelle un spectre de guerre, puisqu'elles vont avoir lieu à l'intérieur par le Patriot Act, qui peuvent avoir lieu à l'extérieur, et qui n'a pas, la guerre contre le terrorisme n'a pas de début, elle n'a pas de fin. C'est pas vrai qu'elle n'a pas d'ennemis, parce que souvent, évidemment, on dit guerre contre le terrorisme, donc l'ennemi n'est pas constitué, mais en fait, ça met en œuvre une espèce de multiplication d'ennemis, puisque les États abritant des terroristes peuvent être visés, les organisations terroristes peuvent être visées, des citoyens américains peuvent être visés, et donc met en œuvre à la fois la possibilité d'une guerre qui n'a pas de limitation de lieu, qui n'a pas de limitation de temps et dont le équivaut à la fois pour l'intérieur et pour l'extérieur des États. Mais c'est une guerre réelle.
Qu'est-ce qui s'est fondamentalement passé au cours des années 2000 pour que, comme vous l'écriviez, s'énonce la fin d'un certain récit de la guerre et surtout s'établisse une sorte d'entente sur ce que le mot de guerre recouvre? Quelle rupture s'est produite pour qu'on en arrive là?
Alors la fin d'un certain récit de la guerre, c'est de la part de ce que j'appelle la doxa globaliste, c'est-à-dire un certain nombre d'intellectuels, qu'ils soient philosophes, politistes ou anthropologues, et qui vont, on peut citer Negri avec Empire ou Frédéric Gros avec État de violence, et qui vont nous dire que la période de la globalisation, en fait, va liquider les États. Et ça, c'est le point va liquider les États. Et donc, il y avait un récit de la guerre qui était articulé à une certaine figure de l'État, une certaine figure de la politique, que celle-ci a pris fin en 1989. Donc ça, c'est leur séquence, quelque chose qui aurait commencé. Alors, les auteurs varient. Certains font débuter une séquence où on va du Péloponnèse à la chute du mur, d'autres à 1648 qui marque le début de la paix de Westphalie, de l'ordre westphalien qui est l'ordre interétatique, qui est la référence canonique pour parler des guerres entre États. Et tous la font quand même arrêter en 1989. Et on se rend compte que le point commun, alors les uns sont quand même des contempteurs absolus des guerres américaines, mais le point commun finalement entre Javier Solana, l'administration Bush et les contempteurs de ces guerres, c'est de dire que l'État n'est plus un opérateur, n'est plus ce qui peut nous permettre de penser la guerre. Et ça a des effets importants parce que à ce moment-là, on rentre effectivement dans le cycle de violence. Alors il y a des violences et dans la violence, vous avez un génocide, vous avez de la criminalité, vous avez du terrorisme, et tout ça devient quand même très indifférencié. Donc, ça m'avait un peu révoltée. Et donc, c'est un peu le point de départ du travail aussi, de savoir comment on peut ramener un peu d'historicité, de singulariser les événements.
Ou comment la violence s'est affirmée comme le paradigme dominant et consubstantiel aussi à la mondialisation. Oui. Expliquez-vous, Catherine Haas. Andrei Makine, vous l'avez senti, ce changement, ce renversement, y compris dans la rhétorique, dans l'utilisation du terme de guerre, après 1989, après la chute du mur.
Il est flagrant, il est flagrant. Vous avez parlé de la Serbie, chère Catherine Haas, et ce monsieur, enfin ce fauteur de guerre qui venait donc de nous raconter sa vision,
Solana, de l'OTAN,
qui est un criminel de guerre. Donc, il oublie de préciser une chose, c'est que les ponts ont été bombardés. Un pauvre petit paysan serbe qui allait labourer ses champs, il ne pouvait plus le faire. Et mon éditeur était sur le toit de sa maison d'édition à regarder les avions américains passer en rase-mot et il disait, je voyais leur visage. Et pour moi, c'était très important de voir le regard de ce pilote qui allait bombarder et tuer les civils. Il oublie de parler de la mort des civils. J'insiste beaucoup sur cette simplicité-là. C'est pas du tout Clausewitz qui me guide, mais c'est que la guerre est simple pour le peuple. Quelqu'un vient et les massacre. Vous avez parlé de l'Afghanistan, j'y étais, un jeune soldat soviétique. Et pour nous, la simplicité était parfaite. C'est un camarade avec qui on a fumé une cigarette et qui se retrouve 2 minutes après, le crâne fracassé. Donc la guerre a cette composante humanitaire terrible, terrible, d'une très grande simplicité. Clausewitz parlait aussi du brouillard de la guerre. Brouillard de la guerre, on ne comprend rien, les proportions changent, on ne sait pas si l'armée en face de vous est puissante, etc. Le brouillard, c'est un très beau titre, très très allemand d'ailleurs, un brouillard. Mais ce brouillard est recherché, ce que vous avez expliqué, mais si clairement, c'est que les dirigeants recherchent ce brouillard. Ils cachent sous le tapis le mot « guerre », ils inventent plein d'autres termes, assez brumeux, et ça les arrange. Les Russes ont ce dicton terrible, la guerre effacera tout, effacera toutes les turpitudes, tous les crimes des gouvernants. Et c'est ce qui est en train de se passer. Les gens qui ont lancé des guerres en Libye, en Syrie et ailleurs, ils devraient être en prison aujourd'hui. Enfin, je n'appelle pas un nouveau Nuremberg, mais je ne suis pas loin de le penser.
Et je pense que
mais c'est une manière de dénoncer, pardon, toutes les interventions militaires hors de ses frontières. Quand vous dites Javier Solana, criminel de guerre, en l'espèce, il se conduit avec le droit derrière lui comme un chef de guerre.
Je vois les résultats.
Ni cette intervention. Mais dans ce cas, quand la Russie intervient aussi à l'extérieur de ses frontières, ça met le pays et Vladimir Poutine. Vous en parleriez aussi comme un criminel de guerre.
La Russie a été appelée par un gouvernement. Élu.
En Syrie.
Le gouvernement, on peut ne pas l'aimer. Je n'ai aucune sympathie particulière pour Bachar al-Assad. Mais il a été élu. Peut-être il fallait donner. Il a été élu et il a participé au défilé du 14 juillet, quelques années auparavant, n'est-ce pas, avec M. Sarkozy. Donc, ce n'était pas un infréquentable, ce n'était pas un monstre au départ. Donc, fallait-il donner un peu plus de temps aux diplomates pour éviter ce carnage. Dostoïevski disait « Je refuse le monde meilleur pour une seule larme d'enfant. » Si l'enfant, un seul enfant, doit verser une seule larme, ce paradis que vous me promettez, pour un paradis du futur, je le refuse. Là, il s'agit d'un demi-million d'enfants irakiens massacrés. Et combien en Syrie aussi.
Je pense que ce que vous disiez sur la Serbie, je pense que l'absentement du nom de guerre sert à ça. C'est pour ça que le point de départ du travail, c'est qu'il faut maintenir le nom, parce qu'absenter le nom déjà, on ne peut pas penser la guerre. Si on n'a pas le mot, on ne va pas penser ça. Donc l'idée de penser la guerre, donc il faut comme condition le mot, et aussi de le soustraire, c'est aussi soustraire que c'est la guerre, que ça a été la guerre pour la Serbie, que ce sont des destructions, destructions d'infrastructures, les destructions de l'État lui-même. Et je pense que ça, après, ça a été très fort en Afghanistan et en Irak, mais c'est dans la même continuité. C'est-à-dire que si on ne nomme pas l'État, on ne nomme pas la guerre, finalement, on leur fait pas. Alors que c'est des occupations extrêmement durables, tout à fait classiques. Et il y a cette idée, c'est Bush qui dit ça. Il dit « Nous serons aux côtés du peuple irakien », tout ça, alors qu'ils ont ravagé le pays, que c'est la guerre civile, la corruption, le meurtre, enfin c'est une situation épouvantable dans laquelle ils ont laissé l'Irak.
Est-ce que vous êtes entendu l'Irak? Est-ce que votre discours est entendu? Est-ce qu'il est recevable aujourd'hui? C'est ça. Un universitaire peut écrire un livre génial, publié chez une très bonne maison d'édition Fayard, venir dans cette radio dissidente qui est France Culture. Voilà, mais
on pourrait presque
envoyer au Goulag pour ce qu'ils disent ici. Ce que j'entends, c'est vraiment passible de poursuite. Et est-ce que vous êtes entendu?
C'est-à-dire que le livre vient de sortir et mon audience est pour le moment neuve.
Chez Fayard, peut-être. Aujourd'hui la guerre, et il sera envoyé à tous les ministères concernés, j'imagine, et vous aurez probablement un retour. Pardon, Catherine Haas, après ce grand compliment de notre ami André Makine, juste essayer de comprendre, ça c'est intéressant ce que vous dites, ce qui a disparu, ce sont les référents aussi de la nation, de la classe, du peuple, toutes ces catégories qui permettaient aussi à la guerre d'être lisible politiquement. Pourquoi ou comment l'État a-t-il dépolitisé la guerre ?
Il y a deux choses. C'est que l'État ne soit plus justement identifié à partir de ce que vous dites, de la nation, du peuple, des classes et tout ça. Ça, c'est une chose. Bon, c'est comme ça. Et là, la chute du mur, dans une conception politique de l'État, des repères aussi par rapport à ce qui était en jeu dans les guerres précédentes. Je pense au moment de la guerre froide, aux enjeux, aux antagonismes politiques qui étaient un peu lisibles par tout le monde. Et chose importante qui était, par exemple, si on prend les guerres de libération, où les catégories des acteurs, les catégories des chercheurs, les catégories des politiques étaient à peu près les mêmes, elles étaient partagées. On s'opposait, mais il n'y avait pas de guerre impérialiste en guerre anti-impérialiste. Il y avait un partage de lexique. Ça a complètement terminé. Ça a cessé. À présent, ce qui est Moi, je crois pas que l'État ait dépolitisé la guerre, mais en tout cas qu'il faut aller chercher la politique en œuvre. Et c'est ça aussi un peu ce que je cherche à faire dans le livre et puis dans ce que je continue à faire. C'est l'État n'a pas cessé, la politique n'a pas cessé, mais il y a des transformations, des reconformations. Il faut enquêter sur elles pour les nommer, pour les qualifier et pour pouvoir les qualifier politiquement. Mais voilà, c'est pas qu'il les dépolitise, mais en tous les cas, c'est à nous de les repolitiser. L'État le fera pas, ça convient très bien. Je veux dire, la situation de l'Irak, de l'Afghanistan, elle était parfaite pour les Américains, donc c'est assez consensuel. Donc
parce que c'est ça le paradoxe. D'un côté, vous nous dites, on l'entend, le mot guerre est utilisé, surutilisé, mais plus utilisé à bon escient, ou en tout cas plus lisible dans la manière dont il est utilisé. Il n'a plus la même charge symbolique aussi dans la manière dont on l'utilise. Donc en fait, pour reprendre le titre de votre ouvrage, aujourd'hui la guerre, si on mettait trois petits points, vous compléteriez comment ?
Je compléterais en disant qu'il faut faire un peu, alors là je pense un peu à la, pour le coup aux gilets jaunes et à la façon dont certains ont pu parler de guerre, de guérilla, de guerre civile et tout ça, qu'il faut mettre un peu d'ordre dans le lexique. Et aujourd'hui, la guerre, la pensée à partir de son aujourd'hui politique. Et si les termes politiques ne sont pas évidents, c'est, aux chercheurs, aux intellectuels, de trouver ces termes-là.
De le réinvestir, André Makine.
Oui, il faut faire comme Peggy qui disait, il faut dire ce qu'on voit, mais plus encore, voir ce qu'on voit. Ça, c'est plus difficile, voir ce qu'on voit, sans le brouillard idéologique.
Merci beaucoup à tous les deux d'être passés autour de cette grande table. Catherine Haas, aujourd'hui, la guerre, penser la guerre, avec Clausewitz, Mao, Schmitt et l'administration Bush. Votre ouvrage vient de paraître chez Fayard. Merci à vous, André Makine. Au-delà des frontières, votre nouveau roman apparu chez Grasset. Un grand merci à toute l'équipe de la grande table qui a préparé et programmé cette émission. À Oriane Delacroix et Henri Leblanc pour la grande table culture. À Mayan Escovic avec Laura Dutèche-Pérez pour la grande table des idées. À la réalisation aujourd'hui, c'était Milena Elig avec Jacques Hubert. Très bel après-midi à tous sur France Culture.